Bien, bonjour. Je vous propose donc de commencer cette table ronde de clôture. Je tiens à dire que je suis très heureux que nous soyons encore aussi nombreux, vu non seulement qu'il s'agit d'un samedi soir, mais qu'en plus, samedi soir, c'est la clôture de toute une semaine d'événements scientifiques et même festifs pour les 40 ans de l'école. Donc je crois que l'intérêt, la qualité des discussions, des communications qu'on a entendues ces deux jours et le thème même qui nous réunit, l'intérêt du thème qui nous réunit est une source de satisfaction pour nous tous. En tout cas, au nom des organisateurs, je crois que je peux dire merci à vous tous et à vous toutes et à toutes les personnes qui nous ont aidés à organiser cet événement. Donc la table ronde qui va suivre, elle est intitulée de la même manière que le panel précédent, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment de titre, spécificité et interdisciplinarité, objet et approche, c'est-à-dire que le sujet est vaste. Mais je crois que c'est très bien comme ça, puisqu'il s'agit donc d'un moment de clôture et je compte sur vous pour participer à la fin des prises de parole de nos participants au panel à cette discussion, non seulement bien sûr pour poser des questions, mais peut-être pour prolonger une discussion plus générale sur ce qui s'est passé ces deux derniers jours. Alors je dois tout d'abord excuser Emmanuel Pedler qui est annoncé au programme et qui est souffrant. Il habite Marseille, il n'a pas pu se déplacer, il s'en excuse et on le comprend très bien. Bien sûr, c'est dommage parce qu'Emmanuel a été une figure marquante de la sociologie de la culture à l'école et bien sûr, il l'est toujours et il aurait vraiment souhaité participer à cette discussion, mais enfin, c'est comme ça, malheureusement. Nous allons avoir une discussion d'abord avec nos trois invités, Nathalie Hennig, Elisabeth Claire et Julien Duval. Et je dois dire qu'on a plutôt tenu à préserver l'ordre qui est annoncé, c'est-à-dire qu'Elisabeth va parler en premier, ensuite Julien et enfin Nathalie, pour développer une réflexion qui est en fait, je crois, au cœur de tout ce que nous avons croisé ces deux jours, c'est-à-dire ces tensions et ces croisements entre des questions qui se posent en termes d'objets et des questions qui se posent en termes de discipline et toutes les formes d'hybridation que l'on peut croiser, notamment et surtout à l'École des hautes études en sciences sociales, de ces deux dimensions de ce qu'est l'organisation théorique et institutionnelle de nos travaux. Donc, pour les présenter rapidement, Elisabeth est chercheur au CNRS, elle est membre du Centre de recherche historique et elle est historienne, donc spécialisée dans un domaine que j'oserais appeler émergent, en tout cas pour ce qui est de l'école, il est récent, c'est des études sur la danse. Elle est historienne de la danse, donc. Mais avec un fort intérêt pour l'histoire des sciences, et c'est l'une des forces de son travail que d'avoir montré ce croisement entre l'histoire des sciences et notamment les savoirs médicaux au XIXe siècle et la question de la danse, en particulier la valse, pour son travail de référence, mais sur d'autres pratiques aussi. Et à ce croisement donc de l'histoire de la danse et de l'histoire des savoirs médicaux, elle ajoute une troisième et très importante dimension, à savoir celle du genre. Elisabeth, si tu veux bien commencer, c'est à toi. Merci.
Merci Esteban, déjà pour l'invitation de pouvoir parler aujourd'hui dans ce contexte. Je crois aussi que c'est peut-être l'occasion de remercier Esteban Bourg collectivement de la part de tous les membres de l'atelier d'histoire culturelle de la danse. Parce que Esteban a eu la bonne volonté et vision de nous accueillir avant quand on était tous en statut de doctorant, doctorante ou post-doctorante pour entamer cette nouvelle recherche sur l'histoire culturelle de la danse. Donc, qu'est-ce que c'est cet atelier d'histoire culturelle de la danse dont je viens de parler? C'est un ensemble de chercheurs et jeunes chercheurs qui ont eu au départ une mission assez informelle et collective entre nous, d'essayer de militer pour une reconnaissance de l'objet danse au sein des sciences sociales. Et on a choisi de le faire à l'école et au CRAL, avec le soutien de ce laboratoire. On vient tous des formations différentes, donc tout de suite on était obligés de partir de l'interdisciplinarité. J'ai fait une thèse en performance studies aux États-Unis, donc une discipline qui est en soi une anti-discipline interdisciplinaire, qui réclame en fait une grande croisement entre anthropologie, études théâtrales, études littéraires, féministes, postcoloniales, queer studies, qui n'a pas de vraie traduction pour le moment, mais gender studies, études de genre et de sexualité, si on veut. Et entre mes différentes collègues, on avait des formations en histoire, histoire sociale, histoire culturelle. Il me semble aussi que tout le monde, presque tout le monde dans le groupe avait aussi une formation en tant que danseur et même parfois, ce qui est mon cas, une passée en tant que danseuse professionnelle. Voilà. Donc on avait entre nous une grande diversité d'outils pour essayer de mettre en place quelque chose de collectif autour de nos objets qui, pour la plupart, en fait, faisaient partie de l'histoire de la danse au XVIIIe et XIXe siècle en France ou en Europe. Donc, nous avons ensemble souhaité créer un séminaire. Donc, on a créé ce séminaire de recherche sur l'histoire culturelle de la danse avec, au départ, nos objets comme point de départ. Donc, je vais juste très brièvement présenter les différentes recherches. Marie Glon, qui vient de soutenir sa thèse et a été dirigée par Georges Vigarello dans le contexte de son laboratoire. Elle avait travaillé sur la circulation des danses écrites, c'est-à-dire la chorégraphie au XVIIIe siècle, et la circulation et la mise en place en fait, d'une collectivité de maîtres à danse sur un projet spécifique d'écriture et de mise à écrit de la danse. Vanino Levesi, qui est actuellement doctorante avec Esther Mbouch au CRAL, qui travaille sur la professionnalisation du ballet à l'Opéra de Paris à la fin du XVIIIe et aux première moitié du XIXe siècle. Et elle analyse en fait cette professionnalisation vis-à-vis aussi d'un prisme de genre, donc la question de la féminisation des spectacles, mise en dimension avec l'émergence du maître à ballet comme chorégraphe à auteur des danses. Sophie Jacoteau, qui a travaillé et publié un livre sur la circulation des danses d'Amérique, les danses de société, et leur réception dans les dancings de Paris entre les deux guerres. Juan Ignacio Vallejos, qui est actuellement au... comment ça s'appelle, de CNRS d'Argentine, au CONICET, merci, en Argentine, qui a soutenu une thèse sous la direction de Roger Chartier sur l'apport philosophique des maîtres à ballet, tel Nover ou Angiolini, au XVIIIe siècle, et qui a donc porté sur le projet de la création du ballet pantomime. La question d'une danse qui pourrait être porteur d'histoire et transmettre l'émotion par le geste, sans recours aux mots. Je pense que maintenant, il travaille plutôt sur les liens entre politique et danse dans le contexte géographique d'Argentine, et notamment la question de la dictature et la présence de la danse moderne en Argentine. Il y a aussi Emmanuel Delattre, qui fait l'histoire sociale de l'école de ballet, donc qui travaille sur la question de la transmission des pratiques dansantes dans le contexte de l'Opéra de Paris et son école au XIXe siècle. Et finalement, je souhaite citer aussi une nouvelle arrivée au CNRS et à l'école, Tiziana Leucci, qui travaille sur l'histoire sociale des danseuses de temple en Inde et qui les met en perspective vis-à-vis de la circulation de la figure de la bayadère dans les danses du ballet occidental pendant la période de grand orientalisme à la fin du 19e, début 20e siècle. Donc voilà pour le petit panoplie des personnes très actives au sein de l'école et qui travaillent sur l'objet danse. Après, je me permets juste un petit poème qui serait un aperçu de qu'est-ce que c'est l'objet danse et pourquoi on est amené à l'étudier dans le contexte des sciences sociales et par une méthodologie qui est forcément interdisciplinaire. Donc la danse, c'est un art, mais c'est aussi une pratique sociale. La danse est un acte de création, une représentation, une pratique rituelle, religieuse, un moment de rencontre collective, une écriture, une expérience kinesthésique. Je ne sais pas si on pourrait réduire aussi ce mot en français à kinétique. Est-ce que ça marche ? C'est pas la même chose, mais c'est, enfin, j'aimerais bien pouvoir articuler les deux. Donc, une expérience somatique, corporelle, une pratique thérapeutique, une mobilisation politique, une technique du corps, un échange économique, une performance genrée, un comportement, un marqueur d'appartenance ou d'exclusion, une pratique de préparation à la guerre. La danse raconte des histoires, exprime les émotions, participe à la culture tant visuelle et sonore que kinesthétique ou kinétique. Dialogue avec les sciences et les technologies. Je pense par exemple à Loïc Fuller qui a participé très activement en fait à la mise en place de l'usage des lumières dans le théâtre vis-à-vis de sa danse et ses expériences avec l'électricité et l'éclairage. La danse sert d'archive vivant de l'histoire orale, ou même comme lieu de transmission des règles juridiques pour certaines sociétés. La danse sert de divertissement, mais aussi circule, sert à la diplomatie, aux pratiques médicales de guérison. Elle participe à la création et à la diffusion de connaissances culturelles, scientifiques, religieuses, juridiques, sociologiques, politiques. La danse est un savoir sensible, mais c'est aussi une science sociale. De mon perspective, la danse ne peut prétendre, comme éventuellement la littérature, à échapper le corps. Je propose donc que la danse est un objet de recherche qui montre un savoir critique peut aussi être sensible. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Elisabeth. Je vous présente donc très rapidement Julien Duval, qui est sociologue, chercheur au CNRS, membre du Centre européen de sociologie et de sciences politiques, et qui a beaucoup travaillé sur le journalisme. En particulier, il a fait un livre sur le journalisme économique et qui s'est également beaucoup intéressé au cinéma. Et il prépare en ce moment un livre sur la sociologie du cinéma. Il a d'ailleurs dirigé un numéro des actes de la recherche en sciences sociales consacré à cette question, en particulier sous l'angle des rapports entre le cinéma et les intellectuels. Et donc c'est avec plaisir que nous l'écoutons.
Je vous remercie. Donc moi je vais essayer donc de formuler enfin quelques remarques sur le cinéma et les sciences sociales, puisque du cinéma il n'a pas été enfin beaucoup question jusqu'ici. Je vais me contenter, enfin je vais faire simplement donc quelques remarques. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, et ce que je vais dire va sans doute donner enfin une importance particulière au point de vue des sociologues. Et je suis bien conscient que les anthropologues en particulier auraient beaucoup de choses à dire également. Ce que je vais dire par ailleurs, il n'y a rien de très très original, ça va décliner en quelque sorte sur le cinéma des choses qui ont déjà été dites à d'autres sujets. Mais en même temps, ça va les spécifier enfin, sur un art particulier, le cinéma, bon, qui, disons, a la particularité d'être jeune et d'être un art dont le statut même d'art enfin, donne lieu, évidemment, à des débats que ne suscitent pas les arts les plus, les plus anciens et voilà, les plus consacrés. L'une des conséquences d'ailleurs de ce statut, enfin un peu particulier qu'a le cinéma par rapport à d'autres arts, du fait qu'il est plus jeune, c'est que les sciences sociales du cinéma ou la, bon, la sociologie du cinéma sont des domaines beaucoup moins constitués que les sciences sociales ou sociologie de la musique, la littérature, etc. Ce qu'on appelle la sociologie du cinéma, on en parle de temps en temps, mais c'est un domaine qui reste quand même très très éclaté, enfin entre des problématiques très différentes et dont hein, beaucoup enfin, sont, ne sont pas aussi creusées qu'elles pourraient ou peut-être qu'elles, qu'elles mériteraient de l'être. Voilà, alors je vais bon, je passe enfin à mes remarques proprement dites. La première, peut-être, ça serait d'insister, le colloque porte sur les sciences sociales et les arts, bon, sur le fait que si le cinéma intéresse les sciences sociales, peut intéresser les sciences sociales, c'est bien sûr comme art, mais c'est aussi, bon, pour rester dans des catégorie grossière, mais comme technique, bon, c'est une technique d'enregistrement qui a pu intéresser les sciences sociales. Alors, il y a un exemple bon, que je trouve un petit peu symbolique, bon, en sociologie, c'est l'exemple de Goffman. On sait qu'une petite partie de Erving Goffman, le sociologue canadien, bon, une particularité de Goffman est d'avoir jeune, au moment de la guerre, hein, avoir une vingtaine d'années, d'avoir travaillé dans un organisme de films documentaires et apparemment d'avoir prêté un certain intérêt au visionnage des films, au fait le cinéma est une technique d'enregistrement, mais aussi de restitution, bon, de l'enregistrement avec des possibilités de ralenti, etc. Et bon, c'est Yvon Aquin, enfin, qui a fait un texte biographique sur Goffman, qui faisait cette remarque, qui est sans doute assez juste, bon, qu'il y a dans la démarche de Goffman comme sociologue, analyste des interactions auxquelles bon, on participe ordinairement, mais sans... Goffman pratique une sorte d'analyse au ralenti. Enfin, il y a quelque chose, une analogie en tout cas possible entre la technique cinématographique, les possibilités qu'elle ouvre, et la démarche d'un sociologue comme Goffman. Dans l'intérêt pour la technique, on pourrait aussi, enfin, je crois mentionner, on oppose évidemment très souvent le cinéma, la photographie, et très souvent on peut être amené en sciences sociales à rencontrer des questions très proches, comment donner du mouvement, comment, bon, c'est une question traditionnelle sur statique et dynamique, comment introduire l'histoire dans les structures, comment introduire de la dynamique dans l'étude du statique. Bon, là encore, il y a une attirance, disons, un intérêt que les sciences sociales peuvent porter à... au cinéma dans sa dimension technique. Une chose que j'ai peut-être enfin oublié de préciser, mais qui est évidemment importante, c'est que par rapport par exemple à ce que je dis sur Goffman, c'est que cet intérêt pour le cinéma qu'on peut éprouver du point de vue des sciences sociales, il n'est pas propre aux sciences sociales, et qu'on l'a trouvé dans les sciences de la nature d'abord, qui ont pris une part importante, on le sait, à l'invention de la technique cinématographique, laquelle a pu contribuer à apporter des réponses. Bon, l'exemple traditionnel du galop du cheval qu'on donne, bon, la technique cinématographique a permis de répondre à des questions que les physiologistes, par exemple, pouvaient se poser. Bon, voilà. Autre point bon, dont il faut évidemment dire un mot, le cinéma est souvent dans l'objet même, enfin, est souvent dans l'objet même des sciences sociales, du moins dès lors que les sciences sociales s'intéressent à des sociétés où... dans lesquelles le cinéma existe, les sociétés un certain nombre de sociétés du XXe et maintenant du XXIe siècle. On peut s'intéresser, bon, des États ont pu utiliser, encadrer la production cinématographique et l'utiliser à des fins politiques. On peut mentionner les travaux de Marc Ferro, par exemple, à l'École des hautes études, qui s'inscrivent en partie dans une question de ce type. Les individus, les groupes aussi que les sciences sociales étudient se trouvent être des spectateurs de cinéma, et on peut être amené à ce titre à s'intéresser au cinéma. Alors c'était peut-être une remarque que les contemporains des débuts du cinéma étaient plus portés à formuler que nous, mais Mauss, par exemple, remarque dans le texte sur les techniques du corps que la manière dont les femmes marchent avait été influencée donc dans les années 20 et 30 par les la manière dont les vedettes hollywoodiennes elles-mêmes marchaient. Voilà, le cinéma est dans l'objet des sciences sociales et on peut s'y intéresser à ce titre. Le cinéma est un producteur de représentation, d'idéologie, de mythes. Bon, on pourrait citer Edgar Morin dont l'inspiration reste présente à l'école des hautes études aujourd'hui. Le cinéma est aussi une production humaine de sociétés du XXe siècle et ils portent leur marque. Il a pu être utilisé à ce titre comme un peu comme source, donc on est dans une autre problématique encore. Bon, il y a l'étude classique de Siegfried Krakauer sur le cinéma allemand des années 20 et la manière dont il est porteur d'une mentalité, bon, c'est en tout cas le terme qui est utilisé dans la traduction française, annonciatrice, la mentalité du nazisme. Et ce type de problématique se retrouve dans des travaux contemporains. On peut mentionner par exemple des études relevant des travaux sur le genre, bon, qui étudient la manière, qui voit dans la représentation cinématographique de la femme, des femmes, bon, un indicateur de leur statut et de l'évolution de ce statut. Bon, il y a des travaux en France, aux États-Unis, en France, dans ce type de problématique. Alors évidemment, ça, bon, c'est ce type de travaux qui consiste à prendre le cinéma comme source pose le problème des analyses en termes de reflets. Alors il était tout à l'heure question de Lucien Goldman. C'est Annie Goldman qui a travaillé plus spécialement sur le cinéma. Dans cette optique du reflet et qui soulevait enfin une difficulté à laquelle aujourd'hui on peut être particulièrement attentif, c'était un problème de la théorie du reflet, c'est qu'évidemment on est face à les différents films reflètent à des titres très différents la société dont ils sont le produit, simplement parce que bon, ce qu'on appelle le cinéma de manière uniformisée recouvre une très grande diversité de produits. De biens, de formes et pour faire référence à une session d'hier après-midi, il y a des films qui sont produits dans des conditions différentes, qui circulent de manière différente et qui du même coup ont des chances d'exprimer des groupes sociaux très très différents. Bon, c'est un axe enfin qui s'est aussi développé, qui est l'analyse justement de cette différenciation du cinéma, des différents types de produits économiques, sociaux. Que l'on regroupe sous le terme de cinéma. Alors évidemment, dès qu'on indique ou qu'on fait référence à cette diversité, ça devient difficile de dire des choses générales sur le cinéma, parce qu'on risque de dire pour l'ensemble ce qui ne vaut que pour une partie. Je voudrais, je m'arrêterai là, bon, formuler juste deux remarques dans la lignée de celle-ci, qui sont des voies enfin, qu'on pourrait peut-être creuser pour, si on voulait s'intéresser, approfondir cette question des relations entre sciences sociales et cinéma. Le texte de présentation du colloque rappelait que les arts et la littérature ne cessent de nourrir les sciences sociales et les sciences humaines et sociales. Et on pourrait, pourquoi pas, bon, et sans nécessairement l'envisager comme un travail un peu narcissique, mais s'intéresser aux consommations, aux goûts cinématographiques des chercheurs en sciences humaines et sociales, ces films qui sont des moyens aussi d'information sur les sociétés, notre propre société, les sociétés étrangères aussi, très évidemment. Et bon, beaucoup de travaux sur les pratiques culturelles, les travaux font apparaître que la formation, est-ce qu'elle a un effet ? En tout cas que statistiquement, il y a une corrélation assez forte entre les goûts cinématographiques, les goûts pour les genres, et la formation, la dominante de la formation littéraire, scientifique. Bon, est-ce que ce qu'on appelle parfois la troisième culture, que sont les sciences sociales, est-ce qu'à cette troisième culture correspond à des formes de cinéma particulières, des formes de cinéma documentaire, on peut y penser, des formes de cinéma social. Voilà. On pourrait aussi retourner un petit peu la question, les arts et la littérature donc, n'ont cessé de nourrir les sciences humaines et sociales, donc je proposais de décliner ça en disant le cinéma peut-être nourrit aussi les sciences humaines et sociales. On pourrait aussi évidemment se demander dans quelle mesure les sciences sociales nourrissent le cinéma et quel type de cinéma est nourri par les sciences sociales. La question sans doute se pose de manière différente. Il y a un cas très particulier évidemment qui est le cas des historiens Voilà, bon, je me contente de poser la question. Et puis la deuxième remarque bon, sur la, que je voulais formuler, enfin, c'était peut-être de rebondir un tout petit peu sur l'intitulé du colloque, où le terme de littérature est inséré entre art et sciences sociales. La question a été enfin, évoquée. Bon, la littérature a compté dans l'histoire des sciences sociales, et les sciences sociales ont bon, un rapport qui est ambivalent à la littérature, et on a, ben on a quelque chose d'un peu du même type dans le cas du cinéma. Enfin, l'une des questions bon, que des travaux ont soulevé, celle de l'autonomisation du cinéma, comment le cinéma se constitue en art partiellement autonome, avec ses propres critères, organisés par exemple autour à la fois de la mise en scène, mais de la mise en scène spécifiquement cinématographique, bon, ce qui est une façon, une forme d'autonomisation à la fois par rapport au théâtre, et à la littérature. Enfin, cette question du rapport ambivalent à la littérature se pose aussi dans le cas du cinéma. Et je voulais enfin finir peut-être en suggérant une forme. Quand on travaille sur le cinéma, on est, je crois, assez quelquefois confronté enfin, à des questions dont on se dit que, avec des adaptations bien sûr, mais pourraient être transposées sous certaines formes aux sciences sociales elles-mêmes. Alors, bon, je crois qu'une question enfin, aussi qu'on pourrait poser est celle de cette espèce de contemporanéité entre les sciences sociales et le cinéma. Bon, je fais de manière très, très cavalière, mais très inexacte, mais bon, de façon très suggestive. Bon, 1895, alors pour des sociologues, c'est une date importante, puisque c'est celle de l'apparition des règles de la méthode sociologique de Durkheim, en livre en tout cas. Et c'est aussi la première projection de cinéma. Et on pourrait prolonger sans doute ça, et notamment à travers peut-être une étude comparée de cette période de l'après-guerre qui a été très particulière dans le cas des sciences sociales, évidemment les décennies de 50, 60, 70, âge d'or quelquefois on dit, et qui ont été aussi très importantes dans les reconfigurations qu'elles ont entraînées à l'intérieur du cinéma, et puis qui ont été aussi importantes dans la naissance de formes de cinéma. On peut penser au cinéma vérité, ce qui s'est appelé en France le cinéma vérité, qui incarnait une forme d'intersection entre les sciences sociales et le cinéma. Donc voilà. Merci.
Merci beaucoup. Nous allons donc enchaîner sur la troisième prise de parole, mais il va de soi que nous aurons tout loisir de poser des questions précises à Elisabeth et à Julien sur leur prise de parole. Donc, pour présenter Nathalie Hennick très rapidement, là aussi, Nathalie est sociologue de l'art, ou disons plutôt qu'elle est surtout connue comme sociologue de l'art. Et donc, s'il y a beaucoup d'ouvrages qu'on pourrait citer, je rappelle juste le titre de son dernier livre, « Le paradigme de l'art contemporain », et le précédent peut-être, puisqu'on y est, celui sur la visibilité, donc qui est un domaine qui est proche de celui de l'art, sans se confondre avec lui, bien sûr. Et donc, ça m'amène à insister sur le point que Nathalie tient à cette identité de sociologue, point, plutôt que sociologue de quelque chose. Et donc là, ça me permet de lui donner tout de suite la parole, peut-être pour déployer quelques réflexions sur cette question discipline, objet, et ainsi.
Merci Esteban d'avoir fait en sorte que je sois là. Merci pour l'invitation. Alors, je vais profiter de cette occasion pour faire un petit retour réflexif sur ce qu'a été l'école à la fois pour moi et pour ma discipline, donc la sociologie de l'art. Et je vais m'y prendre en vous racontant deux anecdotes. Dans mon dernier livre, je plaide pour une utilisation méthodique de l'anecdote comme véritable matériau sociologique, donc je vais en profiter pour mettre ça à exécution devant vous, en vous racontant deux anecdotes. Alors la première se passe en 1977 à l'école, donc 54 boulevard Raspail. Muni de ma toute récente maîtrise de philosophie, je vais voir Hubert Damiche pour lui proposer un sujet de doctorat. Je voulais faire un doctorat à l'école des hautes études, parce que le mot même d'école des hautes études en sciences sociales m'impressionnait beaucoup. Et j'avais fait un doctorat qui était très inspiré de ma très récente découverte des actes de la recherche en sciences sociales de Bourdieu. Et donc c'était sur l'elliptique élitaire, donc le lien entre les ellipses au niveau sémiologique et les phénomènes élitaires au niveau sociologique. Bon. Damisch, avec sa courtoisie et son urbanité légendaire, me dit « Mais ça ne m'intéresse pas du tout votre truc, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour Bourdieu, présentez-le à Bourdieu. » Donc, bon, je ne suis pas sociologue, mais bon, bref, j'ai quand même pris le risque de l'envoyer à Bourdieu, qui m'a appelé très gentiment pour me dire que le sujet était absolument passionnant, mais qu'il fallait une équipe de recherche pendant 2 générations pour le traiter, donc impossible de me prendre en thèse. Et au téléphone, j'ai improvisé un autre titre, Transformation du champ de la peinture et profit de distinction. Je m'étais déjà bien acculturée au vocabulaire bourdieusien. Et donc, il a accepté de me prendre en thèse. Donc, c'est comme ça que je suis passée de Hubert Damisch à Pierre Bourdieu. Et rétrospectivement, aujourd'hui, je me suis dit que du même coup, je suis passée du pôle des sciences humaines, dont Damisch était un emblème à l'école, au pôle des sciences sociales, dont Bourdieu est devenu également l'emblème absolu. Ce sont deux idéaltypes, pourrait-on dire, hein, d'un côté de ce pôle des sciences humaines, des humanités, et de l'autre des sciences sociales. Seconde anecdote, 20 ans plus tard, à peu près vers 1997, l'Encyclopédia Universalis, pour laquelle j'avais déjà fait plusieurs articles, me demande de refaire l'article « Sociologie de l'art bon, », qui datait un peu, me dit-on. Et en effet, je lis l'article et je m'aperçois qu'il datait du début des années 70 et qu'il était signé de Hubert Damisch. Bon. Et donc j'ai été amenée une génération plus tard à réécrire l'article Sociologie de l'art, et ce faisant, je me suis rendu compte qu'en une génération, et en passant de Damisch à moi-même, c'était 2 sociologies totalement différentes qui se mettaient en place. Du côté de l'article de Damisch, on était dans ce que j'ai appelé après coup une esthétique sociologique, c'est-à-dire une forme d'herméneutique de l'œuvre d'art utilisant des éléments de contextualisation sociale, disons. Bon. Et ce que je prenais et ce que j'ai essayé de décrire comme étant la sociologie de l'art dans cet article, c'est ce que j'appelle une sociologie d'enquête. Donc on est du côté du pôle des sciences sociales, c'est-à-dire de disciplines basées sur l'enquête, et qui du même coup ouvre complètement la définition du mot art dans sociologie de l'art en l'ouvrant par rapport à la notion d'œuvre, dans cette seconde acception qui est la mienne, et pas seulement la mienne, évidemment, je la partage avec beaucoup de mes collègues, mais enfin, en tout cas, que j'ai découverte en travaillant, la sociologie de l'art, c'est évidemment pas seulement la sociologie des œuvres d'art, c'est même pas tellement la sociologie des œuvres d'art, parce que je pense pas que les sociologues soient les mieux placés pour parler des œuvres d'art, mais c'est beaucoup plus, et de façon beaucoup plus stimulante, une sociologie des publics, donc de la réception, une sociologie des intermédiaires, des institutions, et puis une sociologie, évidemment, des créateurs. Bon, et c'est, en effet, dans ces domaines-là, qu'à partir des très belles enquêtes de Bourdieu dans les années 60 sur l'art, s'est développée une sociologie d'enquête appliquée à l'art, avec bien sûr Bourdieu et Raymond de Moulin, hein, dont Pierre-Michel Minguère a bien retracé hier l'histoire, que c'est donc complètement reconfiguré au sein de l'école des hautes études, à 2 bureaux de distance, la notion même de sociologie de l'art. Et on est bien dans ce clivage, hein, il me semble que la sociologie de l'art incarne parfaitement ce clivage entre ces 2 polarités, des sciences humaines et des sciences sociales, clivage qui est lui-même au cœur de la discipline sociologique de façon plus générale. Il me semble que la sociologie est par excellence la discipline qui accepte ces 2 conceptions, ces 2 définitions du travail. Alors, qu'est-ce qu'ont apporté donc les sciences sociales, hein, en tant qu'horizon de référence des sociologues de l'art à partir donc des travaux pionniers de Bourdieu? Bon, bah, d'abord l'appui sur l'enquête, hein, qui est l'élément essentiel, les statistiques, le travail de terrain, le souci des méthodes. Alors ça peut être des méthodes quantitatives avec les sondages, et on va avoir dans les années 70 la fameuse enquête sur les pratiques culturelles des Français, ainsi que la distinction, qui sont les 2 grands emblèmes en France, hein, de cette application des méthodes statistiques à la sociologie de l'art, et plus précisément à la sociologie de la consommation culturelle. Et puis, du côté plus qualitatif, on a des méthodes plus ethnologiques d'observation qui existent dans la tradition sociologique, et on peut penser notamment à Goffman, ou bien des méthodes plus historiques, et on peut penser à Elias. Hein. Ce sont des inflexions, des polarisations qui existent à l'intérieur de la discipline sociologique, tout en étant très proche d'autres disciplines comme l'ethnologie ou comme l'histoire. Donc c'est plutôt sur ce second pôle qualitatif que je me suis orientée, après avoir quand même, pour des raisons alimentaires, dû faire les enquêtes de public du Centre Pompidou, donc j'ai pas mal manié de statistiques, et là j'ai vu que c'était pas trop ma tasse de thé, et donc en allant du côté plus qualitatif, eh bien, j'ai été amenée à déplacer mon objet du côté, on est toujours dans la sociologie de l'art, mais mon objet s'est déplacé, je ne dirais pas que je l'ai déplacé, il s'est déplacé tout seul, vers une sociologie des représentations, hein, des représentations de ce qu'est l'art pour les acteurs, représentations cognitives avec les catégorisations, notamment la notion d'artification à laquelle nous avons consacré un livre avec Roberta Shapiro, qui est présente ici, les représentations imaginaires, par exemple la représentation de l'artiste bohème au XIXe siècle, les représentations symboliques avec l'artiste comme figuration symbolique du nouvel aristocrate, hein, dans l'élite artiste du XIXe, et finalement représentations axiologiques avec les systèmes de valeurs, et notamment les régimes de qualification, régimes de singularité, régimes de communauté, ce qui m'a permis, bon, c'est comme ça en fait que se sont écrits mon livre sur Van Gogh, hein, les représentations de l'artiste méconnu, du peintre à l'artiste, les représentations du statut d'artiste, et puis ensuite donc l'élite artiste, la visibilité qui est aussi la question des représentations de l'élite et de l'élite des interprètes, hein, au XXe siècle et non plus des créateurs au XIXe comme dans l'élite artiste. Les représentations des liens entre art et science, on en a parlé tout à l'heure, et bon, j'ai été amenée, notamment grâce à Louis Marin, à travailler sur ces liens entre art et science. Les représentations, bien sûr, de l'art contemporain, hein, que signifie l'art contemporain et que font les œuvres d'art contemporain aux représentations cognitives que se font les gens de ce qu'est ou doit être l'art. Également les représentations, alors dans une autre branche de mon travail qui n'est pas l'art mais l'identité, bon j'en parlerai pas trop parce que c'est pas le lieu aujourd'hui, mais les représentations de l'identité féminine dans la fiction, comme je l'ai fait dans État de femme, est aussi un travail donc sur les représentations, et puis avec la fabrique du patrimoine, ces représentations axiologiques que sont les valeurs sur lesquelles maintenant je travaille et qui me permettent de dire que sans le faire exprès, je suis passée d'une sociologie de l'art au sens génitif à une sociologie de l'art au sens ablatif, c'est-à-dire à partir de l'art, à partir des terrains artistiques, je m'intéresse non pas à l'art au sens des œuvres d'art, mais je m'intéresse au sens commun. Ce qui m'intéresse, en fait, ce sont les représentations de sens commun, et l'art, pour moi, est un terrain magnifique, hein, pour travailler sur ces représentations, d'où, évidemment, un certain nombre de malentendus avec des collègues qui, eux, ont pour objet l'art, et c'est parfaitement légitime, et qui ne se retrouvent pas, et c'est normal, dans ma façon d'aborder cette question. Et donc, si je devais résumer ce mouvement, il s'agit d'inscrire une sociologie élargie aux représentations, c'est-à-dire incluant non seulement les pratiques réelles, et qui est l'objet traditionnel d'une sociologie positive, disons, aux représentations, d'inscrire donc cet élargissement de l'objet sociologique dans l'orbite des sciences sociales et non pas des sciences humaines. C'est-à-dire que traditionnellement, cette question des représentations était plutôt prise en charge par le pôle humanité. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de le prendre en charge par le pôle sciences sociales, c'est-à-dire via l'enquête, hein, via une sociologie qui est toujours une sociologie empirique, une sociologie d'enquête. Et je vais terminer par la question du rôle de l'école des hautes études en sciences sociales dans ce mouvement qui a modifié ma propre pratique de la sociologie de l'art, mais cette modification accompagne un mouvement générationnel qui a vu la sociologie de l'art en France se diversifier et se développer de façon assez spectaculaire, au point que je pense qu'au niveau international, nous sommes, je crois, en pointe, en tout cas sur ce domaine-là. Donc j'ai été amenée à m'éloigner à la fois du Berdamisch au sens où je ne m'intéresse pas aux œuvres, sauf d'un point de vue pragmatique pour décrire ce qu'elles font aux acteurs, par exemple le triple jeu de l'art contemporain ou le parmi de l'art contemporain, ce que les œuvres d'art contemporain font aux acteurs. Et j'ai beaucoup utilisé le rapport de Bourdieu à l'enquête, qui pour moi est absolument fondamental, et à la théorie, je m'en suis éloignée au sens où mon intérêt pour les représentations des acteurs se fait dans une perspective totalement non critique, puisqu'il ne s'agit pas de critiquer ou de dénoncer des représentations mythifiées, faussement naturalistes, etc., pour rétablir la vérité des choses, mais il s'agit d'une perspective totalement compréhensive, que j'ai emprunté à Norbert Elias et à Weber aussi, qui consiste à prendre au sérieux les représentations des acteurs, non pas pour les traiter comme des reflets de la réalité, mais pour en faire des objets mêmes du travail et pour en comprendre la cohérence interne. Donc, j'ai pu, à partir de ma scène primitive originelle d'Amiche plus Bourdieu, m'éloigner de l'un et de l'autre. Et c'est, me semble-t-il, ce que m'a permis le fait d'être aussi proche de cette institution. Non pas seulement, encore une fois, parce que d'Amiche et Bourdieu en faisaient partie, mais aussi parce que toute ma carrière, en fait, s'est faite dans des labos de l'école. D'abord, le Centre de sociologie européenne de Bourdieu, où j'ai appris la sociologie bourdieusienne. Ensuite, le groupe de sociologie politique et morale, dirigé au départ par Boltanski, où j'ai désappris la sociologie bourdieusienne et eu la chance de me trouver au moment où s'élaborait ce qu'on appelle aujourd'hui la sociologie pragmatique, hein, que je pense pratiquer. Je suis toujours d'ailleurs chercheur associé au LAIC, où je me trouve confrontée à des ethnologues et à des problématiques comme le patrimoine ou les transferts de sacralité qui m'intéressent directement. Et finalement, le CRAL, où je suis à présent depuis 1998, mais dont j'ai été très proche beaucoup plus tôt, puisque Louis Marin était à mon jury de thèse, puisque donc d'Amiche a été mon premier interlocuteur, puisque j'ai lu avec passion dans les années 90 les travaux de Todorov, mais le Todorov anthropologue des valeurs ou philosophe moral et non pas le premier Todorov, ainsi que les travaux de Jean-Marie Schaeffer qui m'ont toujours énormément aidé. Et donc le CRAL pour moi est à la fois le lieu par excellence des humanités, hein, c'est philosophie, esthétique, littérature, etc. Donc un lieu où se fabriquent les humanités et où en même temps, du même coup, le dialogue avec le pôle sciences sociales est d'abord possible, ce qui est formidable, hein, et surtout très productif. Et puis c'est aussi et surtout le CRAL, un lieu de pluridisciplinarité qui me paraît emblématique de ce qu'est l'école des hautes études, puisqu'il y a, comme vous le savez, à la fois des philosophes, des historiens de la littérature, des historiens de l'art, et maintenant de toutes sortes de disciplines, des musicologues et d'autres disciplines auxquelles nous essayons de nous ouvrir. Et du même coup, il me semble que cette pluridisciplinarité que j'ai été obligée de rencontrer dans mon travail, parce qu'il me semble que la discipline dans laquelle nous travaillons ne doit pas être guidée par notre affiliation institutionnelle, mais par nos objets. Ce sont nos objets qui doivent décider quelle est la meilleure discipline pour les traiter, raison pour laquelle j'ai été amenée à me frotter à l'histoire, à l'ethnologie, à la psychanalyse, à la philosophie, au droit. Bon, cette extraordinaire ouverture pluridisciplinaire est à la fois une caractéristique, donc encore une fois, du CRAL, mais surtout, vous le savez tous, de l'école des hautes études en sciences sociales, qui me paraît être le lieu par excellence de ces fécondations croisées, hein, on pourrait dire, et aussi de cette extraordinaire plasticité de cette spécialisation départ sociologie de l'art, qui donc en une génération a pu basculer, hein, d'un pôle à l'autre et s'ouvrir d'une façon qui, rétrospectivement, me paraît passionnante et me paraît en grande partie un effet de cette institution très particulière qu'est l'École des hautes études. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup Nathalie. Merci à tous les trois. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment des questions, parce que je ne voudrais pas avoir l'air de poser les questions, mais en tout cas, j'aurais envie de réagir très rapidement à ce que vous avez proposé chacun à votre tour. Pour Julien Duval, j'aurais envie de dire, cette question, oui, cette suggestion d'un parallèle, pour ainsi dire, je ne sais quoi, naturel, entre les sciences sociales et le cinéma, appelle bien sûr, mais de quoi s'agit-il? Et dans cette direction, je pense à ce que la notion de montage, qui a été très travaillée, notamment par Georges Didier Berman d'ailleurs, peut être justement une clé heuristique pour essayer d'aller un peu plus loin dans ce parallèle qui vient d'être suggéré. Donc, le nom de Goffman n'apparaît pas par hasard, je crois. L'autre question qui m'est venue en écoutant Elisabeth, c'est la question du corps. Alors nous avons tous un corps, et je ne vais pas dire que la danse est l'art du corps, parce que ça serait absurde. Et en même temps, on ne peut pas nier que le fait de réfléchir à la question du corps dans le cadre de la danse paraît aller de soi, et le rôle de Georges Vigarello dans la formation de certains des membres de l'atelier a été, tu l'as rappelé toi-même d'ailleurs, et je me suis dit, est-ce que le corps est un objet déjà? Alors je ne parle pas des discours moraux sur ne pas faire du corps de l'autre un objet, mais est-ce qu'en termes d'épistémologie, on peut dire que le corps est vraiment un objet? Et enfin, Nathalie, moi j'aurais envie de... vous allez m'excuser pour cette insistance, mais d'après le tableau que tu viens de faire, je pense que tu vas répondre oui, si tu veux y répondre, non? Mais en quoi cette polarité entre sciences humaines et sciences sociales est vraiment... fondé, tu as déjà donné des pistes, bien sûr, sur les dispositifs d'enquête qui seraient distincts, et je ne cherche pas du tout à les confondre en disant que cette polarité n'a pas de sens. Mais enfin, bon, c'est peut-être une insistance de ma part, est-ce que nous avons besoin de marquer par cette idée des sciences humaines et sociales, justement, cette palette d'épistémologie peut-être, de méthodes sans doute, qui sont inscrites dans ce périmètre. Voilà, ça fait trois questions, et je sais que les trois questions peuvent être suivies de beaucoup d'autres de la salle, donc ce n'est pas une obligation, loin de là, d'y répondre, mais en tout cas, je tenais quand même à réagir à ce que vous avez dit chacun à partir de votre point de vue. Donc, si vous voulez les prendre, et sinon, ce n'est pas obligatoire.
Alors, je réponds vis-à-vis de cette question. Est-ce que le corps est un objet? Enfin, je réponds vis-à-vis de la danse, que la danse, c'est le corps en mouvement, le corps en rapport social. Et je pense que c'est là où les sciences sociales s'intéressent à qu'est-ce que fait ces corps. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un corps, il y en a plusieurs, il y a multiples... enfin, il y a des corps dans les différents moments d'histoire, il y a des différents moments de rencontre dans la société, et il y a des différents modes d'expression, et visiblement tout cela, l'ensemble de tout cela fait l'objet qui nous intéresse. Et je pense que la particularité de la danse, c'est que le corps est à la fois, enfin, le corps en mouvement est à la fois la représentation de cette expression et l'objet au même temps. Enfin, il y a une temporalité du présence qui est très spécifique à la danse. Et je pense que c'est là où étudier la danse pourrait nous amener à avoir d'autres outils qu'on pourrait ensuite peut-être exporter et appliquer à multiples questions. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question.
Oui, merci.
Le fait de représenter et d'être au même temps.
Oui, oui, je te remercie, ça c'est une réponse. Et bien sûr, on pourrait bien aussi m'objecter que bien sûr que le corps est un objet, la preuve, il y a une histoire du corps qui fait référence, et donc, mais c'est pour ça que j'ai voulu rappeler le nom de Vigarello. Mais cette question de l'objet et de sa représentation est en soi, je crois, complexe du point de vue de la définition même de ce qu'est-ce qu'un objet. Voilà, je ne veux pas être plus long.
Non, peut-être un mot sur la première question, enfin, c'est qu'une réponse très, très partielle. Enfin, il me semble qu'une chose qui... Le parallèle, donc cinéma-sciences sociales, bon, le cinéma s'est trouvé dans l'univers artistique, enfin dans l'ensemble, un domaine nouveau à un moment, et il me semble enfin que les sciences sociales aussi se sont trouvées dans l'ordre des productions intellectuelles à être un domaine nouveau. Et voilà, enfin... Je pense que creuser le parallèle, enfin, ça pourrait passer notamment par ça. C'est des domaines qui, pour s'imposer, se sont ont rencontré la difficulté. Un domaine nouveau, qu'est-ce qu'il doit faire face à des domaines anciens qui sont forcément aussi tentés d'exercer une hégémonie, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà. Sur le montage, oui, enfin, c'est évidemment, c'est ce qu'il y a de proprement cinématographique, on dit souvent. Et bon, oui, c'est...
Oui, c'est un débat qu'on peut avoir, mais je ne veux pas du tout imposer cette problématique de la double polarisation sciences humaines, sciences sociales. Simplement, il se trouve que pour moi, elle s'est posée de façon importante, d'abord parce que dès lors qu'on travaille sur l'art, on se trouve donc plutôt vers ce pôle des humanités, mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on se trouve dans des visées qui sont très souvent, de façon plus ou moins explicite, des visées évaluatives, puisqu'il y a quand même toute une dimension de qualification et d'évaluation de l'œuvre d'art qui est très présente dans ce domaine-là, mais surtout des visées herméneutiques, des visées interprétatives. Or, si l'on applique une visée qui est plus propre aux sciences sociales, on va se retrouver soit dans une visée explicative, soit dans une visée compréhensive, explication des causes et puis compréhension des raisons des acteurs. Bon. Or, pour élargir cette problématique à la visée explicative ou à la visée compréhensive, on a besoin d'outils particuliers, parce que dès lors qu'on travaille, alors non seulement sur l'art, en raison de toute son aura comme ça qui le rend un petit peu rétif dans notre culture à l'enquête, bon, mais surtout, ce qui m'intéresse moi, les représentations de l'art, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais dans représentation, il ne s'agissait bien sûr pas des représentations transitives, comment on représente l'art, mais pronominal, comment on se représente. Donc on est bien dans des représentations mentales, et donc dès lors qu'on a affaire à des phénomènes mentaux, la question de l'enquête et de l'accès à ces phénomènes est extrêmement complexe et problématique, et implique du coup des méthodologies de constitution de corpus, d'observation, d'expression, d'analyse de texte, etc. Enfin, bon, toutes sortes de méthodes qui empruntent à des méthodologies qui ne sont plus simplement de l'ordre, disons, de l'interprétation que propose un discours lettré tout à fait sophistiqué et intéressant, mais qui ne répond pas à cette visée à la fois de description, d'explication et surtout, ce qui m'intéresse davantage, de compréhension de ces représentations. Et quand je dis cela, je n'essaye pas de minimiser l'intérêt des humanités. Je pense qu'elles ont parfaitement leur place et elles sont absolument légitimes et nécessaires. Je dis simplement que sur ces mêmes objets que nous partageons, humanité et sciences sociales, il y a place pour les deux et qu'il y a place aussi pour une approche empirique, d'enquête, de description, éventuellement quantifiée, en tout cas systématique, pas seulement de ce que sont les œuvres d'art, mais aussi des représentations que s'en font les acteurs. Et pour pouvoir faire ce travail-là, il faut s'adosser à quelque chose qui s'appelle des méthodologies, et on se retrouve dans le pôle des sciences sociales. Voilà. Donc il ne s'agit pas de plaider l'un contre l'autre, il s'agit de plaider pour la possibilité d'avoir les deux, mais de ne pas les mélanger, parce qu'on ne peut pas faire avec les outils de l'un ce que l'on fait avec les outils de l'autre. Voilà, ce serait ça ma réponse. Mais je conçois tout à fait que pour d'autres approches ou pour d'autres disciplines, cette distinction n'est pas de pertinence. Il se trouve qu'en sociologie de l'art, particulièrement, il me semble qu'elle en a une. Voilà.
Merci. Ben, je crois qu'il est temps d'ouvrir la discussion à l'ensemble de la salle. Ce n'est pas le sujet qui manque. Yves.
Merci. En marge de ce que vient de dire Nathalie à propos de cette polarité, je voudrais faire une simple remarque d'observateur de ces 2, 3, 5 journées. Un paradoxe. L'école des hautes études en sciences sociales ne fournit pas, selon les représentants qui parlent en son nom, la même liste des sciences sociales. Il était saisissant de voir qu'il y a 2 jours, le président même de notre école a proposé une liste en présentant un sociologue de Chicago, a présenté une liste de sciences sociales, d'autres qui ne comportaient d'ailleurs ni la linguistique, ni l'histoire de l'art, ni la danse, ni encore moins le cinéma, toutes ces horreurs, et d'autres, parmi lesquels je crois Jacques, à propos de Royaumont, ont proposé une liste des sciences sociales qui n'avait pratiquement rien à voir avec la précédente. Donc, si je peux introduire une petite note autocritique, gentiment autocritique, au sein de cette école, où j'ai travaillé 40 ans, je dirais, dans ce contexte d'anniversaire et de commémoration, qu'il faut peut-être commencer, si on veut réfléchir et pratiquer surtout réellement l'interdisciplinarité, se mettre d'accord sur ce que sont les sciences sociales, indépendamment même de la polarité sciences humaines ou pas sciences humaines, sciences sociales. Quelles sont les sciences sociales ? Or, nous ne sommes pas du tout d'accord les uns et les autres là-dessus. C'est frappant institutionnellement. Cela se voit ras de terre au moment des élections, par exemple, dans cette école. Je ne veux pas parler de sujets triviaux, mais ils se posent assez cruellement. Et ils font apparaître qu'entre les propos tenus, les hommages rendus à ce que certains dans l'école appellent bizarrement, mais de manière significative, les petites disciplines, on leur rend des hommages. C'était le cas d'ailleurs tous ces jours-ci, on les considère comme des poissons pilotes, mais nous savons bien que les grosses bêtes, les requins qui ont des poissons pilotes, parfois, par inadvertance, mangent le poisson pilote. Donc, concrètement, je veux dire que, premièrement, l'école, et là je ne m'adresse pas à Nathalie, je m'adresse à nos collègues et à moi-même, nous devrions commencer par nous mettre d'accord sur l'expression sciences sociales pour pratiquer une véritable interdisciplinarité. Et deuxièmement, nous devrions veiller à réduire l'écart entre les hommages qui ont pullulé ces jours-ci pendant cette commémoration et cet anniversaire et la réalité pratique, les travaux. Et peut-être ajouterais-je toujours dans une perspective un peu autocritique, nous méfier de l'auto-célébration et regarder plutôt du côté de la programmation, des projets, des idées nouvelles. Dieu merci, il s'en est présenté beaucoup au cours de ces journées. Je ne ferai pas la liste, mais j'ai quand même remarqué que nous avions à l'école une propension, aggravée, alourdie par l'anniversaire, à nous regarder un peu le nombril.
Merci beaucoup Yves. On a besoin d'autocritique, c'est vrai. Je te remercie particulièrement.
Oui. Je veux dire un mot des petites disciplines, c'est en termes de nombre d'effectifs à l'école. Ça n'a pas d'autre signification dans le vocabulaire.
Non, il y a une connotation. Barthes aurait dit connotation.
Oui, bon, en tout cas, c'est ce que ça signifie concrètement dans les débats, justement, qui visait à renforcer la représentation des disciplines numériquement faibles à l'école, mais qui sont considérées comme importantes. Hein. Par ailleurs, il y avait bien la linguistique dans la liste.
Oui, mais si je me permets d'introduire dire un mot de plus dans cet échange, c'est que je ne sais pas qui sont exactement les petits et les grands. Ce que je sais, c'est que le nombre d'étudiants que nous accueillons sur des sujets variés, mais qui ont l'art et la culture en partage, est le premier groupe numériquement parlant d'étudiants en master à l'école en ce moment. C'est l'ADEV qui l'a confirmé lors des statistiques extrêmement précises. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un groupe de disciplines qui est donc appelé à passer du côté des grands, mais en tout cas, ça, c'est un fait auquel je pense que l'école doit pouvoir répondre dans les années qui viennent, puisqu'on parlait de perspective aussi, et pas seulement de regarder vers ces 40 ans en arrière. Est-ce qu'il y a d'autres ? Giovanni, s'il te plaît.
Alors, le pape François a invité à la chapelle Sistine des SDF, qui ont été interviewés à la sortie et qui ont dit que c'était beau et que c'était splendide et que c'était difficile de pouvoir imaginer comment c'était possible. Toute une série de remarques qui étaient très émouvantes, mais qui étaient assez semblables à celles que je pense on peut recueillir à la sortie de la chapelle Sistine en général. Et donc je me suis dit, bon, j'ai toujours eu des problèmes avec la sociologie, mais quelles questions, bon, les représentations qu'on se fait de la chapelle Sistine, quelles questions on pose, quelles réponses on donne, quels clichés existent, tout ça est intéressant. Mais je pense que l'heure est tardive et que la discussion entre nous prendrait du temps, mais je me pose un vrai problème sur cette séparation. Comment peut-on inquiéter sur une œuvre d'art qu'on n'étudie pas. C'est pour moi, c'est un point très difficile, dans la mesure où, pour définir des jugements, des clichés, il faut bien qu'il y ait une connaissance aussi de quelque chose qui n'est pas de l'ordre du cliché. Donc, il faut bien étudier l'œuvre elle-même, non ?
Parce que l'œuvre, enfin, dans ma problématique, je ne nie pas l'intérêt évidemment d'étudier l'œuvre elle-même, mais c'est tout autre chose. Dès lors que, par exemple, on s'intéresse au système de valeurs que les acteurs mettent en œuvre dans les différents contextes, à ce moment-là, on n'a pas besoin. Enfin, évidemment, on peut prendre en compte le fait, mais c'est même pas la peine d'étudier la Sixtine pour comprendre dans quelle mesure elle induit une qualification en termes de beauté, parce qu'on est dans un cadre culturellement construit pour que ce soit la valeur de beauté qui soit pertinente dans ce cadre-là. Et forcément, même si le SDF crève de faim, il ne sait pas où il va dormir ce soir, il va se retrouver interviewé avec un micro, invité par le pape dans la chapelle Sixtine, et évidemment, il saura, parce qu'il est acculturé comme nous tous, que la bonne valeur à mettre publiquement en œuvre dans ce cadre-là, c'est la valeur de beauté. Et donc, voilà, c'est comme ça que je prends les choses. Étudier l'œuvre n'a de sens qu'à partir du moment où ça nous permet de comprendre en quoi l'aspect de l'œuvre ou sa nature, quelle qu'elle soit, induit tel ou tel type de réaction chez les acteurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sens commun. Je suis désolée pour toi, Giovanni. J'adore la Chapelle Sixtine, mais sociologiquement, ce n'est pas ma tasse de thé. Ça ne m'intéresse pas. Il n'y a rien à en faire sociologiquement. Par contre, c'est passionnant de comprendre, lorsque des œuvres posent problème aux acteurs en termes de qualification, comme par exemple la dernière installation d'Anish Kapoor, à ce moment-là, oui, ça devient intéressant de voir en quoi l'œuvre d'Anish Kapoor pose problème aux acteurs, parce que justement, il y a controverse et il y a problème. La Chapelle Sixtine, elle est totalement incrustée dans son cadre axiologique qui fait que ça ne peut pas bouger, quoi. Ça ne peut pas bouger. Heureusement, d'ailleurs. Anish Kapoor, ça peut bouger, heureusement aussi.
Il y a Suzanne Suliman qui veut dire
quelque chose. Oui, s'il vous plaît.
Pour revenir à cette question du montage et de Goffman, je disais justement à Gisèle qu'il y a aussi cette notion qui me semble très, très fructueuse et qui pourrait peut-être faire un pont entre ceux qui veulent étudier l'œuvre et ceux dont je suis, puisque je suis littéraire, etc., et ceux qui s'intéressent plutôt aux structures sociales ou aux représentations sociales. C'est la notion de cadrage, n'est-ce pas, c'est-à-dire le cadre, et qui est central pour Goffman, Frame Analysis, mais le sous-titre de son livre sur Frame Analysis, c'est la présentation de soi dans la vie quotidienne.
Non, ça c'est un autre livre.
C'est un autre. Alors quel est le sous-titre ?
C'est La présentation de soi, c'est un autre livre qui est vraiment le Goffman
mais
interactionniste.
Je pensais qu'il y avait un sous-titre.
Non, c'est Frame Analysis.
Il n'y a pas de... Bon, non. OK. Enfin, alors, il s'intéressait aux deux.
Mais d'expérience.
Oui.
Les cadres d'expérience en français.
Ah oui.
En anglais, c'est Frame Analysis.
En anglais. Non, mais la raison pour laquelle ça me semble intéressant, c'est que, d'une part, c'est une notion donc très importante pour tous ceux qui s'intéressent aux représentations sociales, mais aussi à la vision, tout simplement. On ne peut pas regarder quoi que ce soit sans mettre une sorte de cadre autour, enfin, un cadre catégorique et un cadre visuel. Donc, il me semble qu'on pourrait peut-être faire des analyses, ou on fait, pour interpréter une œuvre, il faut prendre en charge non seulement sa propre façon de l'aborder, donc de le frame, de le mettre en cadre, mais aussi le point de vue, pour utiliser un autre terme donc, qui implique la vision, le point de vue de celui qui l'a fait. Et juste pour citer un exemple tout récent qui m'a beaucoup frappé, c'est le film La loi du marché, qui est très intéressant, puisqu'il représente une sorte de genre qui me semble assez sociologique aussi, puisqu'il s'agit des problèmes du chômage actuellement en France, mais le film lui-même met l'accent sur tout le problème de la surveillance et de la société de surveillance, puisqu'il s'agit de toutes ces caméras qui regardent les clients dans les grands magasins, dont on n'est même pas conscient, mais on se rend compte qu'on est regardé tout le temps. Alors, je ne sais pas si ça intéresse les sociologues, mais bon.
Je réponds juste rapidement avant de laisser la parole. Mais moi, je suis totalement convaincue, comme vous, de la fécondité de la notion de cadre, à la fois dans le sens goffmanien et dans le sens des catégories qui cadrent notre rapport au monde. Mais je ne suis pas certaine que nous ayons besoin de trouver des passerelles communes, des objets communs, des problématiques communes entre ceux qui ont pour objet les œuvres d'art et ceux qui ont pour objet le rapport des acteurs aux œuvres d'art. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Voilà. Je ne suis pas pour un œcuménisme à tout prix. Ça veut pas dire qu'on se lise pas mutuellement. En tout cas, moi, il m'arrive de lire des historiens d'art, mais je suis pas sûre que la réciproque soit vraie. Mais on n'a pas forcément besoin de.
Mais si on parle d'interdisciplinarité, quand même.
Oui, donc voilà.
Qu'est-ce qui est l'interdisciplinarité si vous établissez des frontières très strictes entre les disciplines?
C'est pas qu'on établit des frontières, c'est qu'on a des méthodes qui font qu'à certains moments, on a besoin d'aller voir du côté de l'objet et qu'on va utiliser les descriptions des historiens d'art, par exemple, et qu'elles seront très utiles, puis qu'à d'autres moments, on n'en a pas besoin. Voilà, c'est tout.
Alors, les débats s'animent et vous avez vu qu'il y en a certains qui sont internes au CRAL, donc ça montre à la fois qu'on n'est pas d'accord et qu'en même temps le débat est possible. Moi, bon, ça serait en soi une vraie discussion. Oui, je vais céder la parole, mais j'en profite, et d'ailleurs parce que c'était en lien avec quelque chose que Michael a dit tout à l'heure, ça ne mettra pas d'accord Giovanni et Nathalie, mais moi je me dis, ces personnes qui sont allées voir la Sixtine, en effet, ont vu quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas enregistré, énoncé, verbalisé, ni même, exprimé. La preuve, c'est qu'ils ont dit seulement c'était beau. En même temps, le fait même qu'il y a eu des choses qu'ils ont perçues et qu'ils n'ont pas verbalisées, et que peut-être même ils n'ont pas perçues, mais qui ont une pertinence parce que ça appartient aux propriétés de cet objet qu'un autre observateur va pouvoir découvrir, par exemple un historien de l'art. Je pense que là, on a là un croisement des deux points de vue qui se retrouve dans le projet dont on parlait à propos de la musique, celui d'une histoire de l'écoute, dont Michael nous disait à quel point il est presque insurmontable. Et j'en sais quelque chose, c'est presque insurmontable, mais il y a un presque dans ton propos. Et donc cette tentative de retracer cette mise en relation entre les caractéristiques de l'œuvre et ce que les gens peuvent en retenir ou ne pas en retenir, ça reste un programme de recherche qui est viable et qui est, je pense, je ne dis pas une alternative, mais en tout cas qui peut être mis sur la table au même titre que les deux points de vue opposés que l'on vient d'entendre. Je ne sais pas si, Michael, tu voulais intervenir là-dessus.
Je suis emparé d'un micro. Donc, sans vouloir intervenir dans le débat qui vient d'être ouvert sur, dont tu dis que c'est un débat interne au CRAL. Mais bon, non, évidemment, oui.
En l'occurrence. Il est, pas seul, il est oui. aussi interne à la sociologie oui. de l'art.
Je voulais quand même revenir sur la question générale justement des deux pôles et du rôle de l'EHESS. Et tout en m'associant évidemment à l'autocritique d'Yves Hersan en ce qui concerne le nombrilisme éventuel de ce genre de manifestation qui vient de se terminer. Mais bon, il y a autre chose aussi. Hein. Je voudrais quand même rappeler que cette division, ce clivage entre sciences sociales et humanité, comme on dit maintenant, avec c'est un anglicisme caché, c'est quelque chose qui est très fort effectivement dans le monde anglo-saxon, dans le monde germanique. On voit aussi que le fossé s'approfondit. Mais je voudrais rappeler que précisément ici à l'école et en France, depuis le 19e siècle, mais encore plus particulièrement à l'école, on a une tradition précisément de réunir ensemble ces deux pôles éventuels, différentes, sur la base à la fois d'une expérience historique, d'ailleurs que ça remonte à la Révolution française et à la création de la société de l'observation, des observateurs de l'homme, mais qui a été renouvelée précisément à la 6e section. Quand on regarde le colloque de Royaumont, dont on a parlé sur les sciences de l'homme de 70, bon, c'était même une tentative qui peut nous paraître aujourd'hui un peu bizarre, de réunir non seulement les sciences sociales et les sciences humaines, mais de créer une nouvelle science de l'homme unifiée, incluant les sciences de la nature, puisqu'il était dirigé, ce colloque était inspiré, bon, le grand inspirateur c'était Morin, mais il a inclus François Jacob, les biologistes, etc. Et on avait effectivement l'idée de refonder une science unifiée de l'homme. Bon, c'était utopique. Bon, évidemment, mais cette idée-là, elle n'a pas survécu. Elle ne peut pas survivre de toute façon, même si ça n'exclut pas des ponts très concrets qu'on est en train de construire aussi ici à l'école. Mais Brodel et la suite, les annales qui ont été au centre, en quelque sorte, de l'entreprise intellectuelle, ont toujours proclamé l'unité profonde des sciences sociales, incluant ce qu'on peut appeler les humanités ou les sciences humaines. Et ils l'ont fait sur la base, en quelque sorte, d'une proposition épistémologique ou, disons, d'une affirmation épistémologique de départ, qui était de dire que, à la différence des sciences de la nature, et encore, d'ailleurs, ça, en fait, la différence, comme l'a rappelé Passerance, ça vaut uniquement pour les mathématiques. Mais à la différence des sciences de la nature, telles qu'elles se considèrent généralement, les sciences sociales ou les sciences humaines ont cette particularité, ça a été rappelé d'ailleurs dans les derniers jours, qu'ils se mettent à la fois à l'extérieur de leur objet et qu'ils sont à l'intérieur. Donc ils travaillent ils sont dans cette espèce de relation double, d'où la proposition de Guiden de créer un double herméneutique. Ils sont à la fois toujours dedans, ils réalimentent ce qu'ils sont en train d'observer, ils doivent se rendre compte de la place justement de l'observation. Et ça, c'est commun à toutes les disciplines de sciences humaines et sociales. C'est ça la particularité. Et à partir de là, on peut très concrètement voir comment on regarde tel ou tel objet, avec quelle méthode, avec quel souci d'interdisciplinarité, donc avec quelle représentation sur la frontière entre les disciplines, et ainsi de suite. Mais c'est quand même le projet fondamental de l'école. Et je me rappelle encore, lors de l'élection de Jacques Revel, donc il y a maintenant, je ne sais pas, 15 ans, la première élection, quand il y avait Chartier aussi candidat, Chartier a offensivement affirmé précisément qu'on en finisse avec, ou qu'on revienne à cette vision unifiée des sciences sociales. Donc, encore une fois, ça ne nous épargne pas du tout, ou ça n'enlève pas la nécessité à voir les différences et etc., à voir des spécificités. Mais je pense que le projet fondateur, qu'il faut retravailler aujourd'hui dans des conditions complètement différentes, c'est quand même ça.
Je pense que c'est une façon de décrire les choses, mais il y en a une autre.
J'aurais voulu juste embrayer là-dessus.
Oui.
Je voudrais m'associer à ce que dit Michael et ajouter que la position de l'histoire, le fait qu'à l'école, elle a toujours été définie du côté des sciences sociales, alors que quand on définit les sciences sociales aux États-Unis et aujourd'hui au niveau dominant européen, ce sont des sciences sociales présentistes, vidées de toute historicité. Et je pense que c'est ce rôle pivot de l'histoire qui fait le lien et qui aussi nous amène à une dimension à la fois réflexive, critique sur nos propres catégories. C'est absolument central et c'est autour de ce pivot qu'il faut absolument pas renoncer à ça, parce que c'est un combat au niveau européen. On sépare les financements des humanities et qui sont relégués à fonction mémorielle, créativité, etc., et les sciences sociales qui doivent étudier la socio-économie. Maintenant, la sociologie, c'est même plus c'est que de la socio-économie quantitative selon des modélisations. Voilà, je pense que s'il y a quelque chose à défendre de notre héritage, c'est vraiment ça. Et dans la tradition européenne, il n'y avait pas de séparation sciences sociales, histoire. Cette séparation nous a été imposé de l'extérieur, et je pense que l'école est un des lieux qui résiste à ça. Voilà.
C'est évidemment une façon de présenter les choses, mais je pense qu'il y en a une autre. On peut évidemment présenter les choses de façon œcuménique et idéale, disons, mais la réalité, c'est que nous sommes ici à l'école des hautes études en sciences sociales et non pas à l'école des hautes études en sciences humaines et sociales. Ça veut dire que le projet fondateur a été d'abord un projet qui, à partir de l'école des annales, a essayé dynamiquement de tirer l'ensemble de nos disciplines plutôt de ce côté quand même des sciences sociales, d'enquête, etc., etc. Donc il y a une vision historique dynamique qui montre qu'il y a des tensions et que les tensions vont plutôt du côté d'une attraction, disons, de l'ensemble de nos disciplines vers le pôle des sciences sociales, me semble-t-il, ce qui ne veut pas dire qu'il faut rabattre les humanités sur les sciences sociales, mais je pense qu'il ne faut pas non plus nier leurs différences sous couvert de ne pas laisser dépérir les humanités. Je pense qu'il faut assumer les différences, assumer le fait qu'on peut se côtoyer, se parler et avoir un travail croisé, mais croiser nos ressources ne veut pas dire nier nos différences. Voilà. Et je pense qu'on a beaucoup plus intérêt à insister sur les spécificités des uns et des autres et les intérêts des uns et des autres pour pouvoir mieux cohabiter, se parler, etc., que de faire comme si tout ça c'était la même chose. Voilà, ce qui est, à mon avis, une mauvaise façon de prendre le problème.
Et je vais tâcher de mettre encore un peu de dissensus dans cette conversation. Bien entendu, Giovanni, en prenant l'exemple de la Sixtine, a donné un peu des verges pour le battre, parce que des SDF à la Sixtine, on imagine que le phénomène de l'interprétation de ce qui se passe sous leurs yeux est quasiment réduit à zéro. Mais c'est certainement pas le cas, et Giovanni Esteban l'a souligné. Il se passe dans le rapport à l'art d'une manière générale, des choses extrêmement différenciées. Et c'est la raison pour laquelle une sociologie, même quantitative, et c'est là où je dirais très simplement mon désaccord avec Nathalie, elle le connaît bien entendu, le rapport à l'œuvre est un rapport qui médiatise complètement ce que les sciences sociales peuvent dire de ce rapport. C'est-à-dire qu'il y a toujours une interprétation, il y a quelque chose qui aura été sélectionné dans ce qui aura été vu, il y a une lecture de l'œuvre qui est première par rapport à ce que l'enquête peut faire. Et bien entendu, cette lecture, elle va être socialement, sociologiquement différenciée. Je rappellerai simplement les travaux que nous avons faits en sociologie de la lecture, en donnant un même objet à 600 lecteurs. Bien entendu, le résultat de la lecture de ces 600 lecteurs était extrêmement différent et il pouvait y avoir une sociologie différenciative de la perception de l'objet littéraire qui leur était proposé. Et par conséquent, il n'est pas possible de faire une sociologie qualitative du rapport à l'art qui ne prenne en compte la spécificité de l'œuvre et la spécificité de ce qu'elle déclenche chez ses lecteurs, récepteurs, regardeurs, comme dirait Duchamp. Par conséquent, je suis tout à fait, étant sociologue en principe, je suis d'accord avec la procédure empirique d'enquête, elle est fondamentale à un certain niveau pour certaines questions, mais elle ne peut pas se faire indépendamment d'une lecture de l'œuvre elle-même qui est soit faite par des spécialistes, soit doit être dégagée par l'analyste lui-même à travers le discours que tiennent les regardeurs ou les lecteurs. Par conséquent, les deux choses, je veux dire, d'Amiche et Bourdieu, ne devraient pas être aussi contradictoires que tu le prétends. C'est ma position, tu as donné
mais
la tienne.
On est complètement d'accord, Jacques, puisque tout ce que j'ai fait dans mon travail, ça a été de regarder ce que les œuvres...
Tu viens de réaffirmer 10 fois que pour le sociologue, ce n'était pas important la connaissance de la spécificité esthétique de l'œuvre.
Tu viens de dire, et tu as tout à fait raison, me semble-t-il, d'un point de vue sociologique, qu'on passe, on peut passer par la façon dont les acteurs perçoivent les œuvres et que ça peut être l'objet de notre investigation. Faut-il pour cela s'interroger sur la spécificité même de l'œuvre? Là, j'ai un doute, parce que moi,
je sais que tu as un doute, mais moi, non.
De regarder ce que les acteurs voient dans les œuvres. Et je n'ai pas besoin d'aller regarder l'œuvre, tout simplement, parce qu'ils me le disent, et que l'œuvre n'est pas mon objet. Voilà, c'est simplement une différence d'objet. Voilà, nous n'avons pas le même objet. François Pouillon.
Oui, tout à fait. Donc je crois que le débat sur l'interdisciplinarité est récurrent, mais que d'une certaine façon, il sera quasiment impossible de le débloquer tant que les institutions de sélection des personnels, de promotion des personnels, resteront enfermées au niveau aussi bien de l'université qu'au CNRS, dans des structures qui préexistent et qui se défendent, qui sont très très attentives à ce que quelqu'un ne vienne pas d'une autre section pour postuler à un poste qui ne serait pas de cette section. Donc je crois que moi j'ai proposé, je me rappelle à Gérard Lanclude, socio-anthropologie, il m'a dit attention, jamais, ne dites jamais ça, vous allez avoir tout le monde, tous les sociologues vous tombez dessus et tous les anthropologues également. Donc vous voyez, donc il y a quand même transdisciplinarité, on en parle beaucoup, mais d'une certaine façon on a beaucoup de mal à aller au-delà de, disons, des structures dominantes qui construisent le temps.
J'ajouterais à cela qu'en France, contrairement aux États-Unis, où on peut avoir une position jeune dans deux départements, ici c'est impossible. Ouais. À l'université en tout cas. Donc ça, c'est quand même aussi un atout de l'école qu'on puisse circuler entre les centres. Non, mais je voulais revenir à la question qu'on a abordée ce matin sur la narrativité et sur la question de Jérôme Dukic sur ce langage mental. Et je me posais la question en écoutant les objets sur la danse, sur le cinéma, sur la question du mouvement. Bon, il y a à la fois la question du corps, mais il y a aussi et donc le corps qui peut être aussi, qui peut aussi raconter une histoire, qui peut être aussi dans le récit. L'image aussi peut se constituer en récit et faire le lien avec le débat sur le récit de hier matin. Voilà, ça c'est un objet qui me semble, avec la question du cadrage et en lien aussi avec la question du cadrage, qui pourrait être transversale, à la fois pour réfléchir aux sciences sociales, sciences humaines et sociales, parce que c'est aussi la question de comment on écrit les sciences sociales, et alors sans réduire ça au récit, parce que je pense que c'est le débat est biaisé par le fait de réduire l'écriture des sciences sociales à récit versus structure, mais et justement avec cadrage on sortirait peut-être un petit peu de ça, voilà, et ça et la question de l'art et la question de la cognition, c'est-à-dire ça pourrait être poser la même question aux différentes manières d'appréhender non seulement le réel mais aussi la manière de construire des récits, la manière qu'ils soient fictifs ou qu'ils soient réels, qui se rapportent, les différentes manières de se rapporter à la réalité, et ça pose aussi des questions sur que je n'ai pas eu le temps de poser ce matin à Jérôme, sur quid de la métonymie, de la métaphore, c'est-à-dire que dans il parlait d'image mentale ou de langage mental, mais on peut parler aussi de film mental, hein, parce qu'on a des films, ça fonctionne par les mêmes modes que dans la réalité, on n'a pas besoin de, on parlait du son tout à l'heure, on entend une voiture, on n'a pas besoin de la voir pour savoir que c'est une voiture, c'est-à-dire on peut reconstituer, et c'est pareil dans les images mentales, et les métaphores fonctionnent aussi bien l'esprit que dans la lecture, dans la littérature ou dans l'image, et raconter aussi une histoire par image. Bon, le film, le cinéma, c'est autonomisé justement en faisant valoir l'image par rapport au texte. Voilà, donc c'était juste peut-être que vous avez envie de réagir à ça.
Oui. Elisabeth ou Julie?
Non, j'ai peut-être juste un mot sur la narration. J'ai pensé. Il y a un texte, c'est Nathalie Zeman-Davis qui avait collaboré au film Le Retour de Martin Guerre. Elle était un peu déçue par sa collaboration au film. Et elle a fait un livre, à la suite de ça, où elle réfléchit, où je me souviens qu'elle soulève la question de la narration, de la différence entre la narration au cinéma et en sciences sociales, avec l'idée, par exemple, que la narration au cinéma est centrée sur des personnages visibles, incarnés, ce qui n'est pas forcément le cas dans les discours des sciences sociales. Voilà. Enfin, je pensais à ça par rapport à ta question.
Moi, je réponds juste avec un exemple d'un texte du XVIIIe siècle, et ce débat de ce matin m'avait fait penser à ça, vis-à-vis de la question et le rôle de l'imagination dans la communication que propose la danse. Et en fait, c'est tout le pivot entre la danse en tant qu'art mécanique et le moment où la danse, en tant que pratique, souhaite rentrer dans les beaux-arts. Et c'est là où on trouve beaucoup d'écrits très, très intéressants vis-à-vis du pouvoir de l'imagination, qu'est-ce que le geste transmet et comment par l'affect, on n'utilise pas ce mot, mais comment par le moyen de que le geste frappe l'imagination de l'autre, la contagion de l'imagination. Donc c'est vraiment très intéressant, les reprises de mots qui ont été proposées ce matin. Comment fonctionne en fait la danse en tant que communication entre humains. Voilà.
On avait encore une question tout en haut. Mais là, je crois.
Alors, oui, merci. Merci. Et j'ai des remarques ou questions concernant cette interdisciplinarité. Ça concerne l'histoire, l'art et. Les politiques, la sociologie, tout ça. Alors, il y a plusieurs phénomènes qu'on observe au niveau mondial concernant l'usage de politique de l'art, des œuvres d'art, que ce soit classique ou traditionnel, des œuvres d'art de valeur. Et deuxièmement, il y a un phénomène concernant qui est lié à une dynamique mondiale culturelle, qui est la circulation toute seule des œuvres d'art des petites populations, les œuvres d'art classiques ou traditionnelles des petites populations circulent même sans être identifiées. Et alors que les grandes populations, ils ont toutes les chances de propager leurs choses culturelles, et même au niveau universitaire et tout ça, en académie, de toutes les grandes populations, ils ont des fortes présences comme sous un nom de l'ère culturelle. Alors qu'ils ont toute la chance de propager leur œuvre, ce qui circule,
c'est. Oui, je peux répondre aussi.
Pas encore fini. Concernant l'œuvre d'usage politique, on peut prendre exemple de l'œuvre de Beethoven par politicien européen et l'œuvre des genres de musique traditionnelle de Mongolie par la Chine, qui est présentée à l'UNESCO. C'est ce genre d'usage politique pour promouvoir une image de soi ou de sa propre groupe. Sans comprendre, en fait, sans comprendre le même. Et ça, c'est-à-dire, il y a des phénomènes différents. C'est intéressant d'observer tout ça du point de vue sociologique, historique concernant l'existence de ces phénomènes. Deuxièmement, c'est important du point de vue des valeurs de ces œuvres, parce que la question, c'est est-ce que vous abordez ce genre des choses dans votre.
Oui, peut-être comme réponse.
Est-ce qu'il y a des travaux récents concernant ça?
Oui, bien sûr. Peut-être je propose de revenir sur les travaux de Tiziana Lucci, qui est au CNRS et à l'école, qui travaille dans le centre des études de l'Inde et de l'Asie du Sud, parce que dans ses travaux, et je pense que ça correspond aussi au débat entre l'analyse de l'œuvre et son aspect plutôt sociologique ou historique, et l'importance en fait pour moi, en ce qui concerne la danse en tout cas, de toujours faire les deux, c'est que ces travaux nous montrent en fait qu'il y a eu dans l'histoire de l'indépendance de l'Inde un moment de rupture historique où tout ce qui circule actuellement dans le monde occidental, par exemple, et même maintenant en Inde, en tant que danse indienne classique, enfin, je pense que vous aurez un exemple ce soir au concert spectacle. En fait, il s'agit d'une reconstruction qui a été mise en place par un mouvement féministe indépendantiste qui allait à l'encontre d'une histoire de danseuse de temple et une pratique qui avait une place spécifique dans la société particulière de l'Inde du Sud. Et en fait, si on étudie uniquement cette danse classique dans la manière qu'elle circule aujourd'hui, on pourrait imaginer que c'est une danse traditionnelle. Et en fait, tout son travail est de montrer, par les différentes circulations des danseurs, notamment les ballets, les praticiens de ballet qui sont venus de la Russie et qui étaient présents au moment de cette reconstruction de cette danse par les nouvelles classes plus élevées qui souhaitaient le pratiquer, et de mettre à côté les danseuses de temple qui ont été reléguées à une statue de caste très bas. Il y a eu déjà une rencontre entre la circulation des pratiques occidentales, asiatiques, qui en fait ont créé une nouvelle forme. Et donc, tout cela pour dire que si on ne se rend pas compte de l'histoire qui a mis en place cette pratique, si on fait que l'analyse de l'œuvre d'aujourd'hui, on ne comprend pas toute l'implication sociale qui devrait nous intéresser, à la fois d'une perspective genrée et juste simplement une perspective de la circulation. Donc j'espère que ça correspond. Donc elle s'appelle Tiziana Liucci et elle a publié beaucoup de livres sur ce sujet. Voilà.
Bon, merci. Une petite question. Je pensais tout le temps quand vous parlez que peut-être on peut penser en termes de une zone de bord, de frontières disciplinaires et non en termes de position. Parce que je pensais surtout sur le travail de Piketty, de Carla S., d'Esteban Bush, que tout le temps on travaillait sur la transdisciplinarité. Et je pensais aussi, quand Gisèle parlait de la linguistique, qu'il y a de certains sous-champs. Par exemple, la linguistique chomskienne, qui est très fermée sur ses méthodologies, sur ses outils de travail. Mais quand je pense à la circulation du travail que vous faites ici à l'école, en Argentine, par exemple, que c'est mon pays, la zone de bord, la zone frontière disciplinaire est plus croisée. Par exemple, il y a beaucoup de sociologues de la culture qui travaillent avec des outils des études littéraires. Itamane Versoir circule avec le structuralisme tchèque et le structuralisme français. Et je ne crois que ça sea que soit une inconsistance épistémologique. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez en fonction de votre travail. Si vous voyez comme possible cette zone de bord, cette zone frontière disciplinaire. Je pense aussi sur le texte de Derrida, la loi du genre, quand il dit sur la relation texte-genre, peut-être un texte appartient à plus d'un genre, participe de plus d'un genre, ne appartient à un seul. Je ne sais pas ce que vous en pensez en fonction de votre travail.
Bon, je répondrai très rapidement en disant que je pense que la réponse est multiple et ça dépend des situations. Donc, si je répondrai dans le contexte d'un département de Performance Studies à New York, en fait, la notion de discipline est peu importante. Dans le contexte d'un concours CNRS, enfin, ça change. Voilà.
Oui, c'est tout à fait.
Pourtant, interdisciplinaire, mais bon.
Excellente réponse. Moi, j'ajouterais qu'un objet par définition polymorphe, on vient de le voir avec les deux présentations de Lise et de Jules, on est dans des objets totalement polymorphes qui acceptent des regards extrêmement différents. Et donc, tout dépend de la problématique. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne recherche sans une bonne problématique. L'objet n'est pas le problème. Le fondement d'une vraie recherche, c'est la problématique. Donc, selon la problématique, eh ben, vous aurez un éclairage disciplinaire qui sera différent et vous pourrez éventuellement avoir plusieurs éclairage disciplinaire, ce qui doit guider le choix de là ou des disciplines, c'est à la fois la nature de l'objet, mais surtout la nature de la problématique. Donc tout est ouvert. Mais on ne fait pas non plus n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à chaque discipline, un type de méthode, une certaine limitation de ses capacités, il faut accepter la distribution des disciplines, c'est-à-dire qu'il y a un point jusqu'auquel on ne peut pas aller avec les outils d'une discipline. Moi, je sais qu'avec les outils de la sociologie, je ne peux pas aller dans l'analyse des œuvres, parce que ce n'est pas mes outils, et donc je préfère utiliser les travaux de mes collègues historiens d'art pour, quand je vais faire l'analyse des œuvres. Voilà, c'est tout.
Moi, je dirais juste un dernier mot aussi, lorsqu'il s'agit de la pédagogie, donc le contexte d'éducation, je trouve qu'en fait, les disciplines sont hyper importantes, parce que sans cela, on n'arrive pas à maîtriser les méthodes et les méthodologies. Donc après, en tant que chercheur, on peut se libérer de cela pour créer des notions, des pensées, être original et tout ce qu'on veut. En revanche, au moment de l'instruction, de la transmission de ces idées, je trouve que sans un repli vers les règles et les méthodes d'une discipline, on risque d'être un peu perdu.
Je suis entièrement d'accord.
Moi, je suis un tout petit peu plus indiscipliné, mais quand même...
Alors, oui, moi j'aurais juste une question sur sociologie du cinéma ou sociologie filmique. J'ai cru comprendre que ce que vous aviez défini, c'était quelque chose de l'ordre de la préhistoire de la sociologie du cinéma, ou peut-être une autre histoire, ou une proto-histoire, j'en sais rien. Mais quand on regarde le monde tel qu'il est, ou tel qu'il se représente, puisque c'est plutôt ça qui se joue, l'assassinat de Kennedy, ça a eu un effet dans le cinéma lui-même. C'est-à-dire l'événement travaille le cinéma, donc il travaille le regard du cinéma, il travaille la représentation. Hein. Les Twin Towers, c'est peut-être l'une des images les plus vues depuis au moins une quinzaine d'années. Donc la question de l'image ne se réduit pas au cinéma lui-même. Elle s'est, donc comment elle s'articule dans cette préhistoire, selon vous ?
Oui, est-ce que je peux, enfin, je peux au moins dire pourquoi ce que les remarques que j'ai faites, enfin, situées, c'était par rapport à l'art et les sciences sociales, quoi. C'est, enfin, c'est et le bon, les images d'assassinat de Kennedy ou des Twin Towers, enfin, ne rentrent pas dans, ne relèvent pas a priori d'une production artistique. Voilà. Enfin, c'est pour ça en tout cas que je les avais pas du tout à l'esprit. Voilà. Alors, ça ne répond pas à votre question.
Alors je crois que nous sommes arrivés près de la fin. Justement, c'est bien de rester sur une question sans réponse, comme dirait Charles Ives. Donc ça, c'est pas du tout un souci. J'espère que ce dialogue de ces deux jours va se poursuivre. Nous en trouverons la forme et la manière, j'espère. Avant de nous quitter, je voulais vous dire deux choses. Donc que tout à l'heure à 20h30, nous vous invitons tous et toutes à ce concert qui, en fait, comme l'a bien précisé Elisabeth, n'est pas un concert ou pas seulement un concert. Je vous lis rapidement le programme, de quoi il s'agit. Il s'agit d'abord d'un duo de flûte et de piano qui va interpréter un ensemble d'œuvres de Mozart, Doppler, Yoshimatsu et Piazzolla. Ensuite, nous allons écouter une violoncelliste nous jouer des mélodies d'Éthiopie et d'Érythrée. Ensuite, il y aura une danseuse qui pratique la danse classique manipuri, donc danse indienne. À cela suivra un duo de harpe et de guitare pour des mélodies de l'Afrique de l'Ouest. Et enfin, nous aurons la projection du film Entracte de René Clair avec la musique originale d'Eric Satie jouée par une pianiste live. Donc vous voyez que l'affiche est belle et donc j'espère vous retrouver nombreux tout à l'heure à 20h30. Je vous rappelle que ça se passe à Red Hall, donc l'adresse 4 rue de Chevreuse, c'est tout près. Et avant, nous avons donc un cocktail en salle 8 qui était prévu en principe pour les participants, mais nous sommes ouverts et hospitaliers. Et donc ceux qui voudront se joindre à nous sont les bienvenus. Merci et donc à tout de suite.
Et merci aux organisateurs.